je suis comme dans un rêve.
Radio de la paix, il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures, Christelle Yesso.
Madame, monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à la première édition de ce vendredi matin. Au sommaire, les résultats du programme national de développement PND 2021-2025 ont été dévoilés hier par la ministre Niali Kaba, le point fort à découvrir dans cette édition. À San Pedro, les femmes se réunissent en assises pour présenter leurs difficultés devant les instances de décision. Au Mali, affrontement entre l'armée et des séparatistes près de la frontière avec l'Algérie. Au cours de cette édition, on retrouvera Mel Emmanuel pour la revue des titres. Et en toute fin d'édition, nous aurons l'invité de la rédaction avec Blé-Pierre Norlander, président de la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Il nous parlera du plaidoyer qu'entreprend cette plateforme en faveur des personnes vulnérables en vue des élections de 2025. Les résultats de l'exécution du Programme national de développement PND 2021-2025 ont été révélés hier à Abidjan au cours d'une réunion du Conseil présidentiel d'orientation et des suivis du PND. Il dévoile une diminution du déficit budgétaire national et un taux de réalisation des investissements de 53%. Les détails de cette rencontre présidée par le vice-président de la République, Tiémoko Meilé, avec Mel Emmanuel.
Trois points étaient au centre de la présentation des résultats. D'emblée, le cadre macroéconomique. Il est demeuré solide avec une réduction du déficit budgétaire. La ministre de l'économie, du plan et du développement, Niali Kaba.
La croissance est restée forte avec un taux de croissance de 6,5 en 2023 contre 6,2 en 2022. Le déficit budgétaire également a diminué en 2023, passant de 6,8 en 2022 à 5,2 en 2023.
Ensuite, le rythme des investissements.
Le cumul des investissements réalisés à fin 2023 s'établit à 31 700 milliards de francs CFA sur les 59 000 milliards attendus.
Soit un taux de réalisation de 53,7%. Enfin, la transformation structurelle de l'économie. Elle a connu à la fois une avancée et un recul quant à l'apport des secteurs industriels et primaires au produit intérieur brut, PIB.
On note le dynamisme du secteur industriel dont la contribution au produit intérieur brut est passé de 23,6% en 2022 à 24,5% en 2023. Parallèlement, la contribution du secteur primaire a baissé, passant de 15,8% du PIB à 14,4% sur la même période.
Les avancées réalisées dans l'exécution du Programme national de développement PND 2021-2025 l'ont été grâce au soutien financier du quatuor des partenaires d'aide au développement.
Tout autre sujet. Après la période des examens, place aux vacances. Et pour le bon déroulement de cette période, la 9e édition de l'opération Vacances Sécurisées a été officiellement lancée mercredi à Yamoussoukro. Cette opération, qui est le prolongement de l'opération Épervier 9, vise à sécuriser les personnes et les biens, à lutter contre le phénomène de la drogue et l'incivisme sous toutes ses formes pendant la période des vacances scolaires. On en sait plus avec Émilie Yao.
L'opération Vacances Sécurisées 9 va traiter diverses questions sécuritaires, au dit de Akafou Adel, préfet de police de Yamoussoukro.
1. Lutter contre les incivilités sous toutes les formes. 2. Lutter contre le trafic et la prolifération de la drogue et autres stupéfiants. 3. Lutter contre le banditisme sous toutes les formes et prévenir contre le terrorisme. 4. Renforcer les liens d'amitié entre les populations et les forces de sécurité intérieure.
Akafou Adel a par ailleurs dressé un bilan des actions menées dans le cadre de l'opération Épervier 9.
Du 12 décembre 2023 au 23 juillet 2024, 614 accidents de la circulation se sont produits, dont 21 mortels, 83 dégâts corporels, 189 dégâts matériels et 281 mixtes. 8 personnes impliquées dans la consommation et dans la vente de la drogue ont été déférées devant le parquet. 35 individus interpellés pour des faits de criminalité. Une Kalachnikov AK-47 avec 72 munitions saisies.
Le préfet des régions et du département de Yamoussoukro, Koulibaly-Gando, a salué les résultats obtenus et appelé à l'engagement des forces pour plus d'efficacité sur le terrain avant d'annoncer.
Nous avons décidé de mener la lutte contre l'incivisme routier et le désordre urbain à partir du 1er août.
Notons que dans le district autonome de Yamoussoukro, 500 éléments ont été déployés dans le cadre de l'opération Vacances sécurisées 9. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
À présent, nous partons pour San Pedro, où les femmes des régions du Gboklé, de la Nawa, se sont retrouvées autour de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour lui exprimer leurs préoccupations et attentes. Elles demandent à l'État la subvention des produits de première nécessité afin de réduire la cherté de la vie, entre autres demandes, ce dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire qui se sont tenues le samedi 20 juillet dernier dans le Bassa-Sandra. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans la région.
Démarrées le 22 avril dernier, les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire visent à recueillir les préoccupations des femmes afin de les porter au plus haut niveau de prise de décision, selon Naseneba Touré, ministre de la Femme, Famille et Enfants.
Je suis envoyée en mission par le président de la République pour vous rencontrer, pour échanger avec vous, pour connaître vos réalités et vos préoccupations.
Quelques préoccupations avec Kone Salimata Guédé, présidente du groupement des femmes battantes de Côte d'Ivoire. Ivoire, section San Pedro.
La vie est extrêmement chère à San Pedro. On n'a pas de terre pour vulgariser le vivrier. Nos denrées viennent de très loin. Au niveau des prises de décision, les femmes sont encore moins représentées. Les femmes de San Pedro ont besoin de gynécologues. Les deux gynécologues ont été surexploités. Ils travaillent tellement qu'ils sont malades.
Des recommandations issues de ces assises avec Inago Tetiako Albertine, porte-parole des femmes.
La subvention des produits de première nécessité pour réduire la cherté de la vie. La mécanisation de notre agriculture à travers l'octroi d'engins, la construction de marchés de gros à San Pedro, à Soubré et à Sassandra pour faciliter l'écoulement des produits. La mise en place des espaces jeunes filles dans les lycées et collèges pour endiguer les VBG et les grossesses en milieu scolaire.
Occasion a été donnée d'inviter les femmes à continuer à se battre pour leur autonomisation. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Parlons à présent transport. Depuis 2017, plus de 100 bus ont été détruits selon les humeurs des populations, entravant les efforts du gouvernement pour améliorer le transport des usagers dans de meilleures conditions, s'est plaint le ministre des Transports mercredi lors de sa visite technique à Sotra Industrie, à la zone industrielle de Kumasi, en présence du directeur général de l'entreprise, Boaké Meïté. Écoutons donc à cet effet le ministre Amadou Koné sur l'état actuel de la Sotra.
L'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 2000 autobus avec à peu près un quart du parc qui est immobilisé. Et je voudrais remercier donc l'actionnaire Iveco pour les mesures prises à l'effet de relever assez rapidement les véhicules qui sont immobilisés. Je suis très très heureux de constater qu'un certain nombre de pièces détachées donc, ont été rendues disponibles à cet effet. Donc nous attendons encore à peu près 300 autobus neuf parce que les besoins sont importants. Et je voudrais donc rassurer vraiment le personnel. Nous continuons à faire en sorte que les salaires soient donc assurés. Et je voudrais lancer cet appel. La Sotra n'est pas l'exutoire où quand on est en colère, on va brûler des bus. Les actes de vandalisme sur nos autobus doivent cesser parce que c'est des investissements importants pour transporter les uns et les autres dans de bonnes conditions. Depuis 2017 jusqu'à ce jour, c'est plus d'une centaine d'autobus qui ont été détruits. Et c'est énormément d'argent qui est perdu, c'est des emplois et des salaires qui sont hypothéqués, mais également à l'endroit du personnel de la Sotra. Il me revient que dans les stocks de pièces détachées, dans les ateliers, il y a des choses pas bien qui se passent. Sur cette question, je demanderai au directeur général d'être intransigeant.
C'était le ministre des Transports, Amadou Koné. Hors de nos frontières, des affrontements ont opposé jeudi l'armée malienne et leurs alliés russes à des groupes rebelles séparatistes près de la frontière avec l'Algérie. Les mercenaires russes du groupe Wagner, en compagnie de l'armée malienne, ont projeté de prendre possession de Tinzawatene, le dernier retranchement des civils qui ont fui leurs exactions. Des unités de l'armée de l'Azawad présentes sur les lieux se sont heurtées à l'ennemi pour contrer son avancée et protéger les populations civiles déplacées, a indiqué à l'AFP Mohamed El-Maouloud Ramadan, porte-parole d'une alliance de groupes armés séparatistes à dominante Touareg. L'armée malienne n'avait pas pour le moment réagi, mais une source militaire sous couvert d'anonymat a indiqué à l'AFP que celle-ci poursuit la sécurisation du territoire national. La marche du Niger vers la souveraineté pleine et entière est inexorable, a assuré jeudi le général Abdourahmane Tiani, le chef du régime militaire, dans un discours à l'occasion du premier anniversaire du coup d'État qu'il a porté au pouvoir le 26 juillet 2023. Mardi, la France avait demandé la libération inconditionnelle et immédiate du président élu du Niger, Mohamed Bazoum, toujours séquestré dans sa résidence présidentielle, près d'un an après le coup d'État qu'il a renversé. Le général Tiani répondant, ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. La voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonialiste, a-t-il tranché. Il a par ailleurs indiqué que le Niger œuvre désormais pour l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les partenaires internationaux sans exclusivité. Et sans donc aucune transition, nous recevons Melamani qui nous fait le point de la une des journaux ivoiriens. Bonjour Mel.
Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les unes des journaux ivoiriens reviennent pour la plupart sur les événements qu'a connu la commune d'Adjamé hier. Une opération de déguerpissement du district autonome d'Abidjan dans le village d'Adjamé s'est mue en affrontement entre les habitants du site et les forces de l'ordre. Le Nouveau Réveil parle d'état de guerre hier. Un terme repris par le quotidien d'Abidjan qui titre sur ces affrontements évoquant des scènes de guerre à Adjamé. Ces échauffourées seraient du fait des chefs de village qui ne disent pas toute la vérité aux populations, nous apprend le sursaut. Ce que renchérit l'essor ivoirien en titrant « Affaire Adjamé village, la vérité sur les accords, les preuves qui confondent la chefferie ». Un autre sujet qui fait également la une dans la presse locale ce vendredi 26 juillet, c'est la réunion du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Programme national de développement PND 2021-2025 tenu hier à Abidjan. S'agissant de la croissance économique et de la consolidation des acquis sociaux, le vice-président Thiemoko Meillier a donné des orientations claires, nous apprend l'Expression. Elles ont été exprimées en 7 points. Selon le quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Aussi, le vice-président a reçu le rapport annuel 2023 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, peut-on lire en titre sur l'intelligent d'Abidjan. Enfin, terminons ce tour des unes de la presse ivoirienne d'aujourd'hui avec une note triste. L'incivisme routier a prévalu hier sur les routes de notre pays. Le quotidien d'Abidjan nous apprend qu'un accident de la circulation sur la route de Béomi a fait 10 morts quand à Abidjan, un policier s'est fait faucher par un véhicule, informe le canard déchaîné. Merci à toutes et à tous et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous, Mel Emmanuel, pour cette revue des titres de la presse nationale qu'on pourra par ailleurs retrouver au cours de l'édition de 8h. Et nous en sommes à présent à l'invité de la rédaction, Blé-Pierre Norlander, président de la SIED. La concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire est l'invité de ce jour. Il nous en dit plus sur le plaidoyer qu'entreprend cette plateforme en faveur des personnes vulnérables en vue des élections de 2025. Blé-Pierre Norlander répond aux questions de Junior Cardin.
Bonjour, Monsieur le Président de la SIED, Blé Norlander.
Oui. Bonjour.
On apprend que la SIED fait un plaidoyer en faveur des personnes vulnérables, femmes, enfants et handicapés, en lien donc avec les élections de 2025. Qu'est-ce qui justifie ce plaidoyer?
Ce qui justifie ce plaidoyer, c'est que j'ai fait une tournée dans plusieurs régions pour m'acquérir un peu de comment est-ce que nous devions faire pour amener nos populations à s'intéresser aux élections et faire en sorte que ces élections soient apaisées. Alors, j'ai été dans des régions où j'ai trouvé des femmes qui qui ont vraiment parlé de leur situation. Et souvent, ils ne retrouvaient pas des bureaux. Souvent, ils ne savent pas où aller voter. Ils ne sont pas informés. Bon, donc j'ai écouté les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Je précise, à Gagnoua, par exemple, où j'ai croisé des personnes vivant avec un handicap, où ils m'ont dit, quand il y a des élections, les gens nous frustrent. On n'arrive pas à aller voter, on n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas à faire ça. Des fois, les gens mettent nos urnes dans des coins élevés, et donc nous avons des problèmes. Alors, nous voulons des élections inclusives, faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes mises à l'écart. Et donc, à mon retour, j'ai essayé de faire en sorte que nous puissions nous mettre en phase avec leurs demandes et faire le plaidoyer.
D'accord. Du côté des handicapés, on peut comprendre quelque chose, mais les femmes et les jeunes, quel est leur problème?
Les femmes et les jeunes, il y a beaucoup de femmes, d'abord au sein des partis, qui disent que nous, on veut être candidates, mais on a peur de ce que les hommes vont nous dire. Bon, j'ai dit au moins, si vous n'êtes pas candidat, soyez électrice ou membre du bureau de vote, afin que vous puissiez observer aussi pour les candidats. Elles ont dit, oui, on veut faire tout ça, mais on n'est pas encouragé parce que les hommes nous fatiguent. Et les partis politiques ne vous font pas confiance, ils disent qu'on ne peut pas agir. Donc dans ce cas, nous devons mener des actions pour les sensibiliser à être dans les bureaux de vote et à être électrices elles-mêmes. Et donc, les sensibiliser, renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent représenter un candidat dans un bureau de vote ou alors même être elles-mêmes électrices ou bien candidates. Donc, pour ce faire, nous devons sensibiliser non seulement les autorités, mais aussi les partis politiques eux-mêmes. Parce que c'est dans ces partis-là, sont les femmes qui se plaignent, à part celles qui ne savent pas où aller voter.
Mais M. Blé, oui, dans les partis politiques, ce sujet revient régulièrement. Et dans les partis politiques, on entend dire que l'action politique est un engagement personnel. À ce niveau, qu'est-ce que vous dites aux femmes?
Non, l'action politique est un engagement personnel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut sensibiliser les femmes, renforcer leurs capacités pour cet engagement-là et accroître le nombre de femmes sur les listes électorales pour que cet engagement aille à son terme. Parce que si elles ne savent pas quoi faire, elles ne sont pas sensibilisées et n'ont pas les capacités requises pour être dans des bureaux de vote ou bien pour représenter leur parti, mais il faut bien que nous le fassions pour leur dire non, ça ce n'est pas la taille des hommes, tout le monde peut le faire. Donc, recensez-vous pour qu'on vous forme, par exemple, à une observation, à un renforcement de capacités pour être dans les bureaux de vote et suivre le scrutin comme les représentants hommes le font. Je pense que les partis peuvent quand même faire un planning dans ce sens-là.
Mais donc, le plaidoyer, en quoi il consiste réellement?
Non, il consiste à amener beaucoup de femmes, à renforcer leurs capacités, à les amener à avoir la qualité d'électrice dans les CEL, par exemple, ou bien des membres de bureaux de vote ou des observatrices ou des représentants des partis politiques
et à
des
qui, candidats. Et à qui est adressé ce plaidoyer?
Ce plaidoyer est particulièrement adressé aux partis politiques et même au gouvernement, parce que nous voulons quand même que les gens soient appliqués dans ce que nous faisons dans le cadre des élections, mais c'est surtout aux partis politiques, pour qu'on ait quand même une représentativité des femmes assez nourrie.
Et quand les personnes handicapées vous disent qu'elles ont souvent des difficultés pour accéder au bureau ou au lieu de vote, qu'est-ce que vous faites comme plaidoyer à ce niveau?
À ce niveau, je voudrais qu'on facilite les procédures pour que ces personnes-là, avec handicap, puissent accéder au bureau de vote. Faire en sorte qu'ils soient recensés sur un listing. Je prends un exemple pratique. On dit, bon, à Bobo, nous avons 200 personnes vivant avec handicap. Alors, dans ce lieu de vote, ou bien dans ce bureau de vote, on aura au moins 10. Mais faire en sorte que ces messieurs-là viennent voter aisément. Mais on ne mettra pas le bureau de vote des personnes à mobilité réduite dans une élévation ou bien dans un bureau où il y a des escaliers à prendre.
Donc, à ce niveau, vous adressez à la CEI?
Je m'adresse à la CEI. Ça, à ce niveau, c'est la CEI qui organise les élections. Donc, je voudrais qu'elle vraiment tienne compte de ces handicapés-là pour que ces personnes à handicap puissent venir voter aisément et repartir aisément chez eux. Parce que ce sont des personnes qui comptent aussi pour la société. Ce sont des personnes qui sont enregistrées. Ils ont leur carte d'électeur. Il faut bien qu'ils puissent voter. Et ils se plaignent vraiment pour ça.
Blé Lorander, merci beaucoup à vous.
Merci, merci à vous.
C'était l'invité de la rédaction avec Blé Pierre Norlander, président de la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Et voilà donc qui met fin à cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Les résultats du Programme national de développement PND 2021-2025 dévoilés hier révèlent une diminution du déficit budgétaire national et un taux de réalisation des investissements dans le pays de 53%. À San Pedro, réunies en assises, les femmes demandent à l'État une amélioration de leurs conditions de vie. Et au Mali, des affrontements ont été enregistrés entre l'armée et des séparatistes près de la frontière avec l'Algérie. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour un nouveau bulletin.
Radio de la paix, la voix de la diversité.